France Inter.
Bonsoir Céline Asselot.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
À la une du 18-20 et du premier journal de la soirée, l'intelligence artificielle va simplifier le quotidien des Français.
Oui, c'est en tout cas la promesse du gouvernement qui veut mettre l'IA au service des usagers, des fonctionnaires, pour moins de bureaucratie et plus de simplicité dans les démarches administratives. Et ça touche des domaines très variés. On fait la liste au début de ce journal. Que s'est-il passé dans les hôpitaux de la bande de Gaza où des fosses communes ont été découvertes? Les Nations Unies réclament une enquête internationale. On retrouvera notre correspondant à Jérusalem. On reviendra aussi sur les soupçons d'espionnage au Parlement européen. Un assistant parlementaire du parti allemand d'extrême droite AfD a été arrêté en raison de ses liens supposés avec la Chine. Et on verra que l'affaire embarrasse le Rassemblement national. Pendant ce temps, les eurodéputés votent de nouvelles règles sur les microplastiques pour éviter qu'ils ne se répandent dans la nature. L'ONG Surfrider fait part de sa satisfaction. Moins de 3 jours en moyenne pour décrocher un rendez-vous avec un généraliste. Mais 42 jours pour une consultation chez un cardiologue. C'est le résultat d'une enquête menée par la plateforme Doctolib.
Et on en parlera dans quelques minutes avec notre invité, c'est le cardiologue Marc Villasec qui sera avec nous.
Et puis il va quitter l'AC Milan pour le soleil de Californie. L'ancien international Olivier Giroud s'apprête à rejoindre le Los Angeles FC où il retrouvera un certain Hugo Lloris.
Dans le 18-20 ce soir, en trois mots, il y a d'abord une panne, celle de la voiture électrique. L'Europe n'est pas prête à la fin des moteurs thermiques en 2035. C'est la Cour des comptes européenne qui le dit. Il y a la fierté des habitants de Kharkiv, restés malgré les bombes et malgré tout. C'est un reportage d'Agathe Mahuet dans Un jour dans le monde. Il y a les glaces, celles de minuit à Milan. Et Céline, vous nous raconterez pourquoi les habitants de Milan, justement, n'en peuvent plus. Ce soir également, avec Franck Madvan à 18h50, nous revenons sur ce départ au Rwanda, des illégaux sur le sol britannique. Et puis Caroline Gillet au pays des 27 a encore quelques portes de lobbyistes à ouvrir. En deuxième heure, c'est le téléphone sonne, ce sera à vous de jouer avec Marie-Laure Denis, c'est la patronne de la CNIL. La sécurité de vos données, celle de vos enfants, la reconnaissance faciale, l'IA justement dans notre vie et toutes vos questions bien sûr qui sont les bienvenues.
France Inter.
Le choc de simplification, c'est une promesse de longue date d'Emmanuel Macron.
Oui, élaguer le maquis des lois et des normes, faciliter le chemin des Français dans le dédale des démarches administratives. L'exécutif y fait régulièrement allusion. Et pour y parvenir, eh bien, il va falloir miser sur l'intelligence artificielle. Bonsoir Mathilde Dehimi.
Bonsoir Céline.
C'est Gabriel Attal qui l'a annoncé lors d'un déplacement sur le thème de la transformation de l'action publique. Et cela concerne des domaines très divers. Cela va de la fiscalité à l'environnement.
Oui, fiscalité. Gabriel Attal a donc vanté ce matin les mérites d'Albert. C'est le nom bien franchouillard donné à l'intelligence artificielle qui sera développée pour répondre aux 16 millions de questions posées chaque année à l'administration fiscale. L'idée, c'est de gagner du temps et dédier les agents au relationnel plutôt qu'aux tâches répétitives. Promis, dit le Premier ministre, ça ne remplacera pas les fonctionnaires. Et scepticisme ce soir de Damien Robinet du syndicat solidaire Finances Publiques, la DGFiP.
Soulager les personnels, ça c'est un petit peu l'argument type qui nous est répété systématiquement. On a su qu'il y avait des expérimentations qui étaient faites à la DGFiP justement. Pour l'instant, les résultats ne sont pas hyper qualitatifs. On a sur des sollicitations directes d'usagers fictifs, il y a 70% de taux d'erreur. Ces modèles-là, pour l'instant, ne pourraient répondre qu'à des questions très très simples qui ne sont pas la principale activité, en tout cas des personnels, notamment à la DGFiP. Il faudra voir à terme, mais nous on est très circonspect sur l'utilisation de ces outils.
Peu à peu, l'intelligence artificielle sera déployée partout pour scripter une audience judiciaire, un compte-rendu médical, des cours à la fac pour les étudiants handicapés ou encore faire un premier tri dans les projets d'éoliennes.
Et puis l'autre maître mot du jour, Mathilde, c'est la débureaucratisation.
Oui, Matignon fait un inventaire à la Prévert de tout ce qui va permettre de simplifier notre vie administrative. Les maires n'auront plus à vider tous les ans leurs piscines municipales, trop coûteux. Les chercheurs, plus à fournir leurs frais de repas en mission, trop de paperasse. Enfin, pour tous, la demande de procuration pour voter sera disponible en ligne, quelles que soient les élections. Promesse aussi de préremplir au maximum les formalités pour les naissances, les décès ou les inscriptions scolaires.
Merci Mathilde Dehimi du service économique et social de France Inter. Au Proche-Orient, aucun signe de répit. Alors que la guerre entre Israël et le Hamas dure maintenant depuis 200 jours et les images terribles qui continuent d'affluer, comme celle de ces fosses communes découvertes à proximité des hôpitaux, celui d'Al-Shifa à Gaza, celui d'Al-Nasser à Khan Younes, les deux établissements ont été détruits par des frappes israéliennes. Bonsoir Thibault Lefèvre.
Bonsoir Céline, bonsoir à tous.
Vous êtes en direct de Jérusalem pour France Inter. Les Nations Unies réclament l'ouverture d'une enquête internationale, une enquête qui devra être indépendante, dit l'ONU, dans ce climat d'impunité. Et pendant ce temps, à Khan Younes, on continue à exhumer des corps de ces fosses communes.
Oui, 310 corps exhumés en 4 jours selon la défense civile de Gaza liée au Hamas, et les recherches continuent en ce moment même sur ces images diffusées ce matin par la chaîne américaine CNN. On voit des bulldozers qui remuent la terre sablonneuse, des secouristes en combinaison blanche qui creusent à la pelle sous un soleil de plomb, et puis autour, des dizaines d'habitants fatigués, éplorés, qui cherchent pour certains depuis 2 semaines la dépouille de leurs proches. Ils racontent avoir enterré des cadavres à la va-vite autour de l'hôpital quand les combats faisaient rage en janvier dernier, dans le but d'organiser une cérémonie mortuaire à la fin de la guerre. Le 7 avril, les troupes israéliennes se retirent, les habitants reviennent mais ne retrouvent pas les corps. Ils accusent alors l'ennemi d'avoir déterré les cadavres pour effectuer des prélèvements ADN, puis de les avoir jetés dans des fosses communes. L'armée de l'État hébreu reconnaît avoir cherché des otages parmi les dépouilles mais nie avoir déplacé les corps. Selon le Hamas, des cadavres ont été retrouvés pieds et mains liés. Israël dément. Des informations impossibles à vérifier puisque ni l'État hébreu ni l'Égypte ne laissent les journalistes occidentaux travailler indépendamment à Gaza.
Merci Thibault Lefèvre, correspondant de France Inter à Jérusalem. La situation au Proche-Orient qui crée de fortes tensions à New York, notamment au sein de la prestigieuse université Columbia. Des étudiants pro-palestiniens ont planté des tentes devant la fac pour dénoncer, dans un climat tendu, la guerre menée par Israël. Il y a eu la nuit dernière 130 personnes arrêtées. Elles ont toutes été relâchées, précise la police new-yorkaise. Eux aussi voulaient défendre la cause palestinienne. Le 7 octobre dernier, premier jour de la guerre, les députés de la France insoumise avaient publié un communiqué qui avait suscité la polémique. Ils parlaient notamment de l'attaque du Hamas comme d'une offensive armée des forces palestiniennes. Texte qui vaut aujourd'hui à la chef du groupe parlementaire Mathilde Panot d'être convoquée par la police dans le cadre d'une enquête pour apologie du terrorisme. Jean-Luc Mélenchon fustige un événement sans précédent dans l'histoire de la démocratie. Et on y revient tout à l'heure dans le prochain journal à 19h.
Un agent chinois présumé interpellé au cœur du Parlement européen.
Oui, l'affaire est digne d'un roman d'espionnage. Un assistant parlementaire vient d'être arrêté. Il travaillait pour un eurodéputé allemand, tête de liste du parti d'extrême droite AfD, aux prochaines élections européennes. Et il est soupçonné, cet assistant, d'avoir espionné des opposants chinois exilés en Allemagne et d'avoir partagé des informations sur le Parlement avec les services de renseignement chinois. Pékin dément tout prétendu espionnage, mais le gouvernement allemand parle d'une affaire très grave. Ces révélations sont aussi un nouveau coup dur pour l'AfD, déjà au cœur de plusieurs polémiques, et par ricochet pour le Rassemblement National, parti allié de l'AfD au Parlement européen, même s'il a déjà tenté de prendre ses distances. Précision depuis Strasbourg, signée Élodie Fauré.
Président de la délégation RN, Jean-Paul Garot refuse de commenter l'arrestation, mais d'un sourire gêné, il l'avoue, entre l'AfD et le RN, l'ambiance n'est pas au beau fixe.
Nous avons des explications.
Des explications depuis des semaines maintenant sur la remigration. Marine Le Pen a haussé le ton. Comme un retour de bâton, la coprésidente de l'AfD s'est interrogée la semaine dernière sur l'appartenance de Mayotte à la France, alors que la dirigeante frontiste s'envolait vers l'archipel.
On se demande un peu qu'est-ce qu'il aura pris, quoi.
Thierry Mariani, eurodéputé RN.
Est-ce que c'est une erreur ou est-ce que c'est une banane, une peau de banane? Voilà, j'espère que c'est qu'une erreur.
Lui a longtemps défendu hors micro l'allié allemand. Aujourd'hui, il n'exclut plus la rupture.
On a fait tellement d'efforts au Rassemblement National pour être, j'allais dire, un parti qui se veut exemplaire, qu'on ne peut avoir que des alliés qui sont exemplaires eux-mêmes.
Un RN à l'exemplarité relative, mis en cause dans une affaire d'emploi fictif d'assistant parlementaire et qui ne veut pas traîner en plus les casseroles de l'AfD. Mais la rupture est-elle vraiment envisageable? Si les Allemands partent, d'autres suivront, prévient un député, avec le risque pour le RN de ne plus avoir de groupe, un prix que tous ne sont pas prêts à payer.
Élodie Fauré du service politique. Et cette affaire n'empêche pas les eurodéputés de continuer à travailler, de voter des textes. Ils ont adopté plusieurs mesures pour interdire les produits issus du travail forcé. C'est la Chine qui est dans le viseur. Et pour tenter de limiter la pollution, un droit à la réparation est instauré. Il doit permettre aux consommateurs de demander aux fabricants de réparer les appareils ménagers, les smartphones, même après expiration de la garantie. Et puis de nouvelles règles visent aussi à empêcher la pollution des microplastiques. Jusqu'à 180 000 tonnes de ces granulés disparaissent chaque année dans la nature, dans l'Union européenne. Désormais, les industriels qui les produisent. Les bateaux qui les transportent pourraient être tenus responsables en cas de marée de plastique. Et c'est une grande avancée pour Lucie Padovani de la fondation Surfrider qui lutte contre la pollution plastique sur les plages.
ce texte, il met avant tout l'accent sur la prévention, donc c'est-à-dire demander aux industries qui sont dans la chaîne de valeur des granulés de plastique qu'elles mettent en place des mesures pour éviter les pertes, les fuites de ces granulés, comme on a eu des exemples catastrophiques récemment en Galice. Et après, ce texte permet aussi qu'on tienne responsable les industries de cette pollution quand elle a lieu. L'avancée qui a été entérinée majeure par le Parlement, c'est de couvrir le secteur du transport maritime, qui est souvent à l'origine de pertes de granulés de plastique industriel dans l'environnement, avec des conséquences catastrophiques pour l'océan et le milieu aquatique. Parce que pour l'instant, ce qu'on constate, c'est déjà une impunité pour les pollueurs, mais c'est aussi un manque de prévention de tous les acteurs de la chaîne de valeur. On a besoin, en fait, d'avoir une réponse européenne à un problème qui est transfrontalier.
Lucie Padovani de la Fondation Surfrider, au micro de Célia Kilré. L'Europe qui prend donc de l'avance avec ce texte, alors que débutent à Ottawa, au Canada, les négociations mondiales pour lutter contre les déchets plastiques. Un chef d'établissement qui demande à une élève de retirer son voile, qui subit des menaces et qui décide de quitter ses fonctions. Il y a 2 mois, le cas du proviseur du lycée Maurice Ravel avait suscité une vague d'indignation en France. Et l'affaire est arrivée aujourd'hui devant la justice, puisqu'un jeune homme de 26 ans est poursuivi pour avoir proféré des menaces de mort sur les réseaux sociaux. Il s'agit du frère de l'une des élèves de cet établissement. Bonsoir Sarah Guibaudou.
Bonsoir.
Vous avez suivi l'ouverture de cette audience au tribunal correctionnel de Paris. Le procès a été renvoyé au 26 juin prochain, mais le prévenu a tout de même pris la parole pour réitérer ses excuses et son profil a visiblement suscité beaucoup d'étonnement.
Oui, depuis le premier renvoi le 12 mars, 2 lettres de recommandation se sont ajoutées à son dossier de la SNCF où il a travaillé en alternance pour un master de marketing et d'une association de soutien scolaire où il a fait un service civique. Il respecte son contrôle judiciaire, vit chez ses parents et cherche du travail. Mais avec cette affaire, mes chances se sont amoindries, témoigne le jeune homme qui s'exprime bien, allure classique et soignée. Comme son CV, elle tranche avec les faits reprochés le 28 février. Le soir de l'altercation entre le proviseur et l'élève voilé, il écrit sur le réseau X « Ma sœur m'a raconté, c'est une dinguerie, il faut le brûler ce chien. Je regrette ses propos ignobles », déclare aujourd'hui le prévenu. « Je tiens à présenter encore mes excuses au proviseur et à toutes les personnes que j'ai pu blesser ». Il y a quelque chose à comprendre, souligne son avocat. Ce sera l'objet de la prochaine audience, car le délit, provocation à commettre une infraction, ne relève pas d'une comparution immédiate, mais d'une chambre spécialisée dans le droit de la presse, confirme la présidente. Elle sera finalement jugée juste avant les grandes vacances.
Merci Sarah Guibaudou, en direct du Palais de Justice de Paris.
Combien de temps faut-il pour décrocher un rendez-vous médical ?
Une question cruciale pour beaucoup de Français, surtout ceux qui vivent dans les déserts médicaux. Question à laquelle a tenté de répondre la plateforme en ligne Doctolib, qui vient de publier une enquête réalisée avec la Fondation Jean Jaurès. Résultat pour les généralistes, la moitié des rendez-vous sont obtenus en moins de 3 jours. En revanche, c'est plus long pour les pédiatres, 7 jours, les dentistes, 11 jours, les gynécos, 22 jours. Et il faut être encore plus patient. Si l'on veut consulter un dermato ou un cardiologue, il faut respectivement 36 et 42 jours pour décrocher un rendez-vous avec ses spécialistes.
Bonsoir Marc Villasec.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes cardiologue libéral à Nîmes, président du Conseil national professionnel cardiovasculaire. C'est un peu contre-intuitif, Marc Villasec, cette étude. Il y a beaucoup de gens qui nous écoutent et qui doivent se dire, dites donc, moins de 3 jours pour un généraliste, 22 jours pour un gynéco, c'est moi, c'est bien bien plus que ça.
Oui, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, alors déjà cette étude elle est assez incroyable au niveau national et mondial puisqu'elle est basée sur 200 millions de rendez-vous sur une année et elle a été faite sur trois ans,
de suite,
ouais. Ça fait plus de 500 millions de rendez-vous. Et en fait, c'est la moyenne entre les soins non programmés, entre les délais de rendez-vous rapides et les délais qu'on appelle, si je veux avoir un rendez-vous pour une maladie chronique, on le donne dans 3 mois. Mmh. Par contre, si le médecin généraliste appelle le cardiologue dire « je veux que le patient soit vu rapidement », à ce moment-là, on lui donne un rendez-vous dans les 48 heures. Mmh. Pareil de généraliste, vous avez une angine, vous l'appelez, il va vous donner un rendez-vous rapide. Si vous dites « j'ai besoin d'être vu pour le suivi de ma maladie », eh ben, il va vous donner un rendez-vous dans 10 ou 15 jours.
Ça veut dire que quand c'est important et quand c'est grave, en fait, les déserts en quelque sorte se réduisent. Est-ce qu'on dit qu'au fond, le désert médical est moins grave qu'il n'y paraît en France, que le reste est surtout quelque chose de ressenti de la part des patients ? Est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire ça ou pas ?
Non, non, il y a quand même clairement ce que montre cette étude, c'est qu'il y a clairement des zones où en fait les délais de rendez-vous sont quand même moins importants. Par exemple, dans les grands centres urbains, sur la côte atlantique ou sur le littoral méditerranéen, les délais de rendez-vous sont moins importants. Par contre, il y a des zones où les délais sont plus longs, mais même dans ces zones où les délais sont plus longs, en fait, on peut avoir un accès rapide au médecin généraliste, au pédiatre ou au cardiologue.
Ce que pointe Doctolib, hein, c'est 7 régions de France, 15 départements qui sont particulièrement touchés. Et il y a une règle qui est presque une lapalissade, Marc Villasec. Effectivement, plus on est proche d'un grand centre-ville, moins le désert médical est aride. Enfin, ça a l'air simple, mais c'est bien de le dire aussi.
Ah oui, oui, non, mais, enfin, complètement. Mais c'est important de le dire. Alors maintenant, il y a presque des gens, et ça on ne peut pas le mesurer, qui préfèrent... on va dire aller faire leurs courses dans un grand centre-ville et de voir le médecin pendant ce temps. Comme ça, il aura des délais plus courts dans un grand centre urbain que chez lui à 50 km.
Et chez vous, Marc Villasec, vous qui êtes cardiologue, on est passé en 2 ans de 33 jours d'attente à 42 jours pour un rendez-vous. À cause de quoi, selon vous? Est-ce qu'on parle de vieillissement de la population? Est-ce qu'on parle de plus de maladies cardiovasculaires? Est-ce qu'on parle de moins en moins de cardiologues? Est-ce que c'est un peu les trois, mon capitaine?
Ben, voilà, vous avez tout compris, c'est exactement les trois. Il y a un vieillissement de la population et la maladie cardiovasculaire est liée à l'âge des patients. Il y a une augmentation des maladies de 2,5% par an, ce qui est assez important. Et le nombre de cardiologues a diminué de 100%, puisqu'en fait, on a diminué les effectifs de la cardiologie, alors que c'est la discipline la plus choisie, la discipline médicale la plus choisie.
Et ben, j'allais vous demander, pourquoi est-ce qu'on ne veut plus être cardiologue libéral?
Non, non, mais là, on veut toujours être cardiologue tout court, cardiologue de ville ou hôpital, à l'hôpital. Mais en fait, c'est le nombre de postes d'internat qui ne sont pas assez ouverts. Parce qu'il y a une décision à un moment, un choix politique qui a dit on préfère mettre des urgentistes et des réanimateurs au lieu de cardiologues. Je ne juge pas ce choix-là, mais en fait c'est un choix qui a été fait à un moment.
Alors en parlant de choix politique pour pallier ces manques, en attendant effectivement le numerus clausus qui, un peu ouvert, finira par donner des médecins, mais ça ne se fait pas évidemment du jour au lendemain, est-ce qu'il y a des moyens, est-ce que vous avez pointé des moyens pour aller plus vite dans les rendez-vous, l'allègement des tâches administratives, la téléconsultation même pour vous les cardiologues en fait?
Alors nous, pour les cardiologues, la téléconsultation, ça se prête pas trop parce qu'on a besoin toujours d'un stéthoscope et de faire un électrocardiogramme. Mais quand même, les délais moyens d'un généraliste sont 2-3 jours. Avec la téléconsultation, c'est 1 jour. Nous, il y a la téléexpertise, qui est un moyen très intéressant où le médecin généraliste fait un électrocardiogramme ou le médecin généraliste a un doute sur un symptôme. Par la téléexpertise, il envoie. Moi, je reçois la demande d'avis le jour même, je réponds et à ce moment-là, j'ai dit si c'est grave, je le prends de suite. Il y a la télésurveillance et puis il y a les autres pays. Les Allemands ont déjà pas mal de 2 à 3 personnes qui les aident au niveau administratif. Il faut que nous, on s'y mette. Et d'autres pays comme les États-Unis, le Canada ou l'Angleterre ont les infirmières à pratique avancée. Moi, j'en ai une dans mon cabinet. Et clairement, ça me soulage et ça permet d'avoir des délais de rendez-vous moins importants. Donc, en fait, il y a des solutions. Le plus dur, c'est de s'y mettre.
Eh bien, écoutez, voilà. Il n'y a plus qu'un. Comme on dit, Marc Villasec, vous êtes cardiologue libéral à Nîmes et aussi président du Conseil national professionnel cardiovasculaire. Merci beaucoup.
L'actualité ce soir, c'est aussi le mouvement des contrôleurs aériens qui pourrait prendre de l'ampleur. Une grève est prévue jeudi, elle pourrait conduire à de nombreuses annulations de vols et des retards, tandis que le principal syndicat des aiguilleurs du ciel menace déjà d'une nouvelle grève pour le pont de l'Ascension au mois de mai prochain. Les syndicats regrettent l'échec de négociations sur des mesures d'accompagnement salarial dans le cadre d'une refonte du contrôle aérien en France. Et puis c'est le meilleur buteur de l'histoire des Bleus, et c'est aux Américains qu'il va maintenant montrer l'étendue de son talent. Olivier Giroud va rejoindre cet été le Los Angeles FC. Bonsoir Xavier Monferrand.
Bonsoir Céline.
L'attaquant était en fin de contrat avec son club, l'AC Milan. Il a donc décidé de poursuivre sa carrière dans le championnat nord-américain.
Oui, il aurait pu décider de raccrocher, de s'arrêter là après l'Euro, qui va vivre cet été avec les Bleus, et puis une dernière saison pleine avec le Milan. 13 buts, 8 passes décisives, mais à 37 ans, Olivier Giroud voulait un nouveau défi, un dernier peut-être. Voilà pourquoi il a choisi de rejoindre la MLS, le championnat américain, où évolue désormais un certain Lionel Messi. Mais si l'Argentin a choisi Miami, le Français, lui, va mettre le cap à l'ouest et s'engager avec le Los Angeles FC, où il va retrouver un gardien qu'il connaît bien, son meilleur ami, Hugo Lloris, ancien capitaine de l'équipe de France. Olivier Giroud doit s'engager avec le club californien jusqu'en décembre 2025, après 3 ans donc passé à l'AC Milan, où il a disputé 121 matchs et inscrit 46 buts. L'Euro, au mois de juin, sera donc certainement son dernier tour de piste avec les Bleus, sa dernière compétition, sa dernière occasion donc de pousser un peu plus loin son record, puisqu'il est donc, vous l'avez dit, meilleur marqueur de l'histoire en équipe de France, avec 50 prendre 7 buts.
Bon, bah, rendez-vous donc le 1er août pour voir Olivier Giroud avec le maillot noir et or du Los Angeles FC. Merci Xavier Monferrand du service des sports de Radio France.
Céline Asselot pour Le Journal. Merci, à tout de suite dans Un jour dans le monde, notamment avec une histoire de glace vanille fraise. Un œil sur le ciel.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Automobiles, utilitaires, poids lourds, engins agricoles, Euromaster, votre partenaire confiance depuis plus de 30 ans.
Élodie Calac, bonsoir. Une journée encore froide demain.
Oui, bonsoir à tous. Encore de petites gelées en effet dans l'Est et le Massif central le matin. Moins que ce matin tout de même parce que ce sera plus nuageux. Il fera 4 à 9 degrés près des côtes. L'après-midi souvent 8 à 13 degrés, jusqu'à 13 à 16 près de l'océan et sur le sud-ouest. Il fera 15 à 18 degrés près de la Méditerranée où vous aurez du soleil toute la journée mais avec du vent encore assez fort. En Mistral tramontane jusqu'à 80 km à l'heure.
Et ailleurs un ciel bien nuageux.
Oui, alors quelques éclaircies tenteront tout de même leur chance mais elles resteront plutôt timides. On aura une rare averse possible du centre Val-de-Loire et de la région parisienne vers les côtes de la Manche, la Bretagne et les Charentes, et puis davantage d'averses du sud-ouest vers les Alpes, le nord-est, les frontières du nord. Sur le nord-est, quelques flocons pourront même s'inviter dès 300 à 500 mètres le matin, mais la neige remontera vers 700 à 1000 mètres l'après-midi.
Et merci beaucoup, Élodie Calac de Météo France. Vous revenez tout à l'heure après le journal de 19h.